Vous écoutez RTL.
Alain Duhamel, bonsoir.
Bonsoir.
Hier soir, sur France 2, Manuel Valls a expliqué que s'il avait utilisé le fameux 49-3, le vote automatique, donc, c'est à cause des frondeurs. Est-ce que, selon vous, il exagère ?
Ben, je vais peut-être vous étonner, mais non, il n'exagère pas du tout. Il a parfaitement raison. C'est de la faute des frondeurs, effectivement. Il faut se rendre compte que ce qui s'est passé pendant tout ce gouvernement, c'est quand même une véritable tentative d'obstruction, presque de sabotage des frondeurs qui appartiennent à la majorité, qui appartiennent au Parti Socialiste, contre le gouvernement, que théoriquement il devait soutenir, et en particulier contre Manuel Valls. Ouais. Ça a cristallisé sur les deux lois les plus symboliques, qui étaient la loi El Khomri et la loi Macron. Bon, là-dessus, Manuel Valls n'a pas voulu céder. Il a déjà été obligé d'accepter beaucoup de compromis qui ont vidé d'ailleurs ces deux lois d'une partie importante de leur intérêt. Il a voulu aller jusqu'au bout. François Hollande aurait préféré qu'il évite le 49-3. Emmanuel Macron pensait que sa loi pouvait peut-être passer ric-rac sans 49-3. Manuel Valls l'a fait, mais s'il l'a fait, c'est vraiment de la faute des frondeurs.
Mais alors, Manuel Valls a-t-il raison ou tort de vouloir renoncer maintenant à l'utilisation de ce fameux 49-3 ?
Bah, il a complètement tort, évidemment. Il a complètement tort, d'abord, parce que dire maintenant qu'il est contre, alors qu'il l'a mis en œuvre, il ne l'a pas mis en œuvre de façon abusive, mais il l'a mis en œuvre clairement à 6 reprises à propos des deux lois principales. Ça ressemble vraiment au minimum de l'opportunisme et peut-être à de l'insincérité. En plus, c'est complètement contradictoire avec son profil et avec ses ambitions. C'est quelqu'un dont la force et la différence avec les autres candidats socialistes, c'était qu'il a une envergure, qu'il a de l'autorité, qu'il a une forme d'éloquence un peu martiale, qu'il incarne quelque chose, il incarne des valeurs morales, il incarne un esprit de décision. Là, on a l'impression qu'il hésite, qu'il se banalise, qu'il veut rentrer dans le rang. C'est ridicule. Et puis, sur le fond, constitutionnellement, il a utilisé un article de la Constitution exactement dans l'esprit de cet article et dans la forme de cet article. Et avant lui, aussi bien Raymond Barre, Pierre Mauroy, Michel Rocard, bien plus souvent que lui, l'avait utilisé et tout le monde savait très bien que c'était l'application de la Constitution. Moyennant quoi, il perçut les deux tableaux. D'une part, ceux qui étaient pour la loi, d'autre part, ceux qui étaient contre la loi. D'une part, ceux qui étaient pour le 49-3, il n'y en avait pas beaucoup, et d'autre part, ceux qui étaient contre, et ils étaient très nombreux.
Est-ce qu'il vous semble tout de même que la campagne de Valls commence à décoller ou pas ?
Écoutez, je dirais que les chiffres sont bons, mais que les chiffres sont fragiles et que sa stratégie est honorable, mais que sa mise en œuvre est défaillante. Alors les chiffres sont bons parce que pour l'instant, il est très nettement en tête au premier tour et au second tour, il l'emporte clairement, quel que soit son adversaire. Je parle bien entendu de la primaire socialiste. Est-ce que ça signifie qu'il a une sorte de garantie ? Non, il n'y a pas du tout de garantie. Ça peut évoluer très vite et ça peut évoluer négativement. Il peut y avoir un phénomène Juppé. Ce n'est pas du tout de la politique fiction. Par ailleurs, il a décidé de se regauchir. Il a décidé d'avoir l'air d'être l'homme d'un rassemblement. Il a surtout très bien compris qu'il ne pouvait pas essayer de gagner sur le bilan, que ça ne pouvait être que sur un projet. Mais simplement, il n'est pas convaincant. Ça veut dire que s'il n'est pas nettement meilleur pendant les débats télévisés, tout reste ouvert.